Le journal vous est présenté par Guillaume Fariol.
Bonsoir. Combien de temps tiendront les derniers djihadistes de l'État islamique en Syrie? Les forces démocratiques syriennes ont lancé aujourd'hui l'assaut sur Baghouz, ultime village tenu par l'organisation terroriste. Les rues d'Alger envahies par les manifestants aujourd'hui, des dizaines de milliers d'Algériens rassemblés contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. YouTube, ses millions de vidéos et sa communauté de pédophiles, un blogueur américain fait trembler la plateforme internet. Il révèle que des utilisateurs se servent des commentaires pour transmettre des contenus pédopornographiques. Dans ce journal également, Emmanuel Macron tente l'apaisement à la veille d'un nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Il était à Bordeaux aujourd'hui pour un débat avec les élus locaux. Et puis une note pour les entreprises françaises, elles sont désormais évaluées de 0 à 100 sur l'égalité homme-femme. Le gouvernement veut éradiquer les inégalités salariales d'ici 3 ans. Pas sûr que ça suffise, nous en parlons avec l'économiste Dominique Meurs, invité de ce journal. L'ultime assaut contre l'organisation État islamique en Syrie est lancé. Les forces démocratiques syriennes ont débuté cet après-midi leur attaque contre le dernier réduit tenu par les djihadistes à Baghouz, dans l'est du pays. Les terroristes sont retranchés dans un petit périmètre qui pourrait maintenant rapidement tomber, Nathanaël Charbonnier.
Baghouz, c'est vraiment le lieu symbolique qui restait à prendre aux mains de l'État islamique. Une zone de quelques kilomètres carrés, cela faisait plusieurs jours que les forces arabo-kurdes évacuaient des milliers de personnes de ce dernier endroit, du fameux califat. Les opérations s'étaient accélérées depuis le 20 février dernier. Il faut dire que beaucoup de personnes se trouvaient là, notamment de nombreux étrangers de différentes nationalités. La situation de Baghouz était compliquée parce que dans la population se cachaient les derniers djihadistes qui utilisaient les civils à la fois comme boucliers humains, mais aussi comme sésame pour sortir de cet ultime bastion caché au milieu de la foule. Ce vendredi soir, les forces démocratiques syriennes ont donc décidé qu'il était temps de passer à l'assaut final pour déloger cette fois les irréductibles djihadistes qui refusaient encore de déposer les armes. Cette bataille est la dernière qui permettra d'enfin crier victoire. Une victoire militaire, car il n'est pas dit que l'État islamique privé de terre ne continue pas d'exister sous une autre forme. D'autant qu'à ce jour, on est toujours sans nouvelles d'El-Baghdadi, le calife de Mossoul.
Nathanaël Charbonnier pour France Culture. Au moins 23 membres des forces de sécurité afghanes tués dans une attaque des talibans. Une base militaire du régime a été assiégée pendant de longues heures. Le ministère de la Défense précise que 20 insurgés ont été tués. Cette attaque intervient en pleine négociation pour ramener la paix dans le pays. Négociateurs américains et talibans sont réunis cette semaine au Qatar pour des pourparlers. Une nouvelle réunion est prévue demain. Des dizaines de milliers d'Algériens dans les rues pour dire non à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le pays connaît depuis près d'une semaine un mouvement massif de contestation contre le président en place au pouvoir depuis 20 ans, affaibli par un AVC depuis 2013. Aujourd'hui, une marée humaine a déferlé partout dans le pays. Manifestation largement relayée par les réseaux sociaux algériens. Farida Noir.
À Alger, à Oran, à Constantine, dans l'est du pays. Blida, Tizi Ouzou, Anneba, partout des slogans hostiles envers le pouvoir. Non au cinquième mandat, on ne va pas s'arrêter. Le peuple veut la chute du régime, pouvoir assassin. Enveloppés dans leur drapeau algérien, les manifestants crient leur colère. Le Premier ministre algérien a mis en garde le peuple contre un scénario comparable à la Syrie si les manifestations se poursuivent. Ce père de famille, son enfant sur les épaules, lui répond. Nous ne sommes pas la Syrie, nous sommes des Algériens. On ne fera rien, on ne casse pas, on ne brûle pas, on aime notre pays plus que vous. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue avec nos enfants. Demain, on sera ici avec nos femmes. Que vive l'Algérie ! Ceux qui ne sont pas dans la rue sont aux fenêtres pour encourager les protestataires. La police algérienne, elle, tirait des grenades lacrymogènes pour dégager l'entrée du palais du gouvernement pour disperser des manifestants. Les canons à eau ont été déployés. La mobilisation de ce vendredi a été supérieure à celle de la semaine passée à Alger. Le camp présidentiel a jusqu'à dimanche pour déposer le dossier de candidature d'Abdelaziz Bouteflika devant le Conseil constitutionnel.
Et une dizaine de personnes ont été blessées dans des heurts avec la police, principalement des jeunes manifestants qui ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre. Le pilote indien emprisonné depuis 2 jours au Pakistan est libre. Il a été remis à New Delhi il y a quelques heures. Un geste de paix, dit Islamabad, après plusieurs jours de tensions entre les deux pays, depuis en fait l'incursion aérienne de l'Inde en territoire pakistanais. Un blogueur américain fait trembler YouTube. Dans une vidéo visionnée plus de 3 millions de fois, il révèle l'existence d'une gigantesque communauté pédophiles sur la plateforme Internet. Des internautes utilisent les commentaires sur les vidéos pour transmettre des contenus pédopornographiques, Roméo Van Maastricht.
Sur YouTube, il existe des millions de vidéos de petites filles, anodines pour la plupart. En tenue de gymnastique, elles vous expliquent comment faire des roues, des poiriers ou vous montrent comment réaliser des poses de yoga. Sous ces vidéos, des milliers de réactions d'utilisateurs. On peut y lire des commentaires malsains tels que « tu ferais une très bonne mère »,« très jolie petite fille », des miams et autres remarques particulièrement indécentes. Certains utilisateurs partagent même des liens permettant d'intégrer des groupes de messagerie pédophiles. De plus, une fois après avoir cliqué sur une de ces vidéos, l'algorithme de YouTube nous redirige constamment vers encore et toujours plus de vidéos de fillettes. YouTube veut donc frapper fort, d'autant plus que certains annonceurs publicitaires comme Nestlé, Disney ou l'opérateur télécom AT&T ont décidé de retirer leur publicité de YouTube, autant de revenus financiers en moins pour la plateforme de Google. Après avoir supprimé des millions de commentaires suspects la semaine dernière, elle vient de décider d'interdire la possibilité de commenter les vidéos où apparaissent des mineurs. Pourtant, en allant sur la plateforme, on trouve encore ici et là de nombreux vidéos de petites filles. Dans les commentaires, il reste encore des remarques à tendance pédophile. Rappelons qu'en France, la loi punit de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende la recherche et la diffusion de contenus pédopornographiques lorsqu'elles sont faites via un réseau électronique comme Internet.
Les explications de Roméo Van Maastricht. 16e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Demain, des rassemblements sont attendus à Paris, Lille, Bordeaux ou encore Toulouse. Et comme toujours, cette question, combien seront-ils dans la rue ? Peut-être plus que la semaine dernière après les déclarations d'Emmanuel Macron mardi. Pour le président, tous ceux qui manifestent sont complices des violences. Cet après-midi, le chef de l'État était à Bordeaux, rencontre avec des élus locaux. Et cette fois, il s'est montré un peu moins provocateur, Anne Fauquemberg.
Emmanuel Macron a surtout appelé au retour au calme. Le chef de l'État estime que le mouvement n'est plus compréhensible actuellement par les citoyens. Il qualifie également d'intolérables les violences qui émaillent les manifestations depuis le 17 novembre dernier. À la fin, c'est la négation de la démocratie, estime-t-il. Pour autant, Emmanuel Macron ne souhaite pas réinstaurer l'état d'urgence et il s'en est expliqué en réponse à une question d'un élu local.
On ne décide pas de l'état d'urgence parce qu'on a des tensions sociales dans son propre pays. On décide de l'urgence quand il y a vraiment des rébellions fortes, quand il y a des mouvements exceptionnels, quand il y a le terrorisme que nous avons connu. Et donc j'assume pleinement cette décision. Elle aurait été plus contraignante sur les libertés publiques, mais elle n'aurait pas permis d'apaiser le débat.
L'état d'urgence dont certaines dispositions trouvent toutefois une traduction dans le droit commun depuis les nouvelles lois antiterroristes, mais il s'agissait ici de présenter un visage plus ouvert. Alors que sur Internet, les prochains actes de mobilisation se préparent, un sit-in pour paralyser la capitale les 8, 9 et 10 mars prochains, et puis une semaine après, le 16 mars, au lendemain de la fin du grand débat, un autre événement se prépare et se partage sur Facebook. Il a pour titre « 100 000 Gaulois réfractaires à Paris ».
Et Emmanuel Macron sera l'invité de la télévision italienne dimanche, information de nos confrères de France Info. Il participera à une émission alors que les relations sont tendues entre Paris et Rome, notamment sur la question de l'Europe. Selon l'Élysée, le chef de l'État soulignera les liens d'amitié entre la France et l'Italie. Le grand frère de Chérif Chekat, auteur de l'attentat de décembre à Strasbourg, arrêté chez lui cet après-midi, il a menacé sur Facebook de commettre à son tour un attentat. Ce soir, je fais la une de BFM, tout est planifié, voilà ce qu'a écrit Malek chez Kat sur le réseau social. 15 ans de prison pour un ancien prêtre de Perpignan. Il a été condamné cet après-midi pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Les faits se sont déroulés entre 2006 et 2009. Cet ancien aumônier des Scouts d'Europe a également l'interdiction définitive d'exercer toute activité au contact d'enfants et d'adolescents. Les Pays-Bas ne monteront pas plus au capital d'Air France KLM. C'est ce qu'ils assurent dans une lettre adressée à l'autorité des marchés financiers aujourd'hui. Plutôt cet après-midi, l'AE a créé la surprise en acquérant 14% du géant du transport aérien, presque autant que la part française. Les entreprises françaises de plus de 1000 salariés sont désormais notées sur l'égalité femmes-hommes. Elles ont jusqu'à ce soir minuit pour publier un index sur leur site internet. C'est obligatoire. Une note sur 100 basée sur plusieurs critères, notamment l'écart de salaire femmes-hommes à poste et âge identique et la présence de femmes parmi les 10 plus grosses rémunérations. En cas de score inférieur à 75, ces entreprises ont 3 ans pour augmenter leur note, sinon ce sera une sanction, elle pourra aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Dominique Meurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris-Nanterre. Alors cet index, bonne ou mauvaise chose ?
Eh bien, c'est quand même une bonne chose de s'occuper d'égalité. C'est une bonne chose d'obliger les entreprises à afficher des résultats et avoir une contrainte, puisque si leurs résultats sont mauvais, elles risquent une pénalité financière. Mais évidemment, on peut regretter que cet indice ne traite pas toutes les inégalités entre les femmes et les hommes, et qui laisse même de côté les principales sources d'inégalité, à savoir le temps partiel, puisqu'il est calculé sur des équivalents en temps plein. Les primes de pénibilité, les primes de poste sont exclues du calcul de l'indice. Or, dans beaucoup d'entreprises, surtout industrielles, ça va être un vecteur de creusement des inégalités des rémunérations totales. Et enfin, comme il est calculé par grande catégorie post-âge, eh bien, ça laisse de côté tout le problème de différence de structure hiérarchique entre les femmes et les femmes étant moins représentées souvent aux plus hauts échelons ou même dans les échelons de cadre intermédiaire.
Le gouvernement, il entend éradiquer les inégalités injustifiées au travail d'ici 2022 grâce à cet index. Donc ça vous semble peut-être un peu ambitieux ?
Disons que peut-être qu'on arrivera à ce que toutes les entreprises atteignent un score de 100, mais ça ne voudra pas dire qu'on aura éradiqué toutes les inégalités. Bon, reprenons sur le temps partiel. Le temps partiel, ne pas en prendre compte des différences de temps travaillé, que ce soit d'ailleurs le temps partiel ou les heures supplémentaires, c'est faire l'hypothèse que le temps partiel est choisi. Or, une partie du temps partiel est contrainte. D'autre part, en raisonnement à poste égal, même si ce sont des grands postes, eh bien, on n'a pas vraiment de lutte contre la sous-représentation des femmes au sommet. Bon, il y a bien sûr cette partie d'indicateurs sur les 10 plus hautes rémunérations, où il faut avoir au moins 4 à 5 femmes pour avoir les points nécessaires, mais ça porte que sur les 10 plus hautes rémunérations. Ce qu'il faut regarder, c'est la totalité de la structure hiérarchique.
Ça veut dire que le gouvernement, il n'est pas encore assez volontaire sur ce sujet ?
Non, pas encore assez, effectivement. Mais bon, il faut quand même noter le progrès. Hein. Je veux dire, il faut quand même pas être négatif. Quelque chose est en train de se passer. Et les entreprises sont vraiment sur le sujet, sont maintenant beaucoup plus conscientes, surtout les grandes entreprises. Non, ce qu'on peut aussi regretter, c'est que le gouvernement place une obligation sur les entreprises, mais n'assume pas le calcul de cet indicateur. Alors qu'il aurait pu charger la statistique publique de calculer à partir des données communiquées par les entreprises de façon obligatoire, donc qui existent déjà, de calculer des indicateurs qui leur permettent non seulement de savoir où elles en sont, mais aussi d'identifier les causes des inégalités. Là, je vous en ai cité trois potentiels, donc les différences de temps travaillé, les primes ou la structure hiérarchique. Pour qu'une entreprise construise une politique salariale efficace, il lui faut savoir dans son entreprise quel est le facteur le plus responsable de cette inégalité. Ça peut être tout à fait les histoires de primes de pénibilité attachées à certains postes, si les hommes sont majoritairement dans ces postes.
Vous m'avez dit notons le progrès. Alors notons le progrès quand même, parce qu'on est passé très vite sur les bons côtés de cet index. Quels sont-ils ?
Oui, c'est vrai qu'on est passé un peu trop vite sur les bons côtés, parce que le côté transparence, le côté publicité sur le site web, le côté des entreprises vont se comparer entre elles et elles vont essayer elles vont avoir le syndrome du bon élève, ça c'est très positif.
Ça peut créer une émulation entre les entreprises ?
Tout à fait, parce qu'il y a actuellement on a quand même des grandes entreprises qui sont très très au courant de ce sujet, qui réfléchissent beaucoup et qui avancent, et puis d'autres qui sont beaucoup plus à la traîne et qui n'ont pas encore perçu l'importance de cette thématique. Là, ben, je pense que les entreprises à la traîne vont se dire, ben si, il y a un sujet. Et donc ça, c'est positif. Tout ce qui peut encourager l'égalité, c'est positif.
Merci Dominique Meurs d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'université Paris-Nanterre, et preuve que peut-être cet index n'est pas un reflet fidèle des inégalités dans notre pays entre les femmes et les hommes. Pour l'instant, les entreprises qui publient leurs notes semblent toujours être des élèves modèles, 90 sur 100 pour LVMH, 94 pour La Poste, jusqu'à 99 sur 100 pour CNP Assurance ou encore la Maif. La météo de demain, avec quelques averses. en Alsace et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ailleurs, c'est du soleil. Côté température, comptez 12 à Lille et Brest, 13 à Strasbourg, 14 pour Bordeaux. La maximale à Perpignan avec 17 degrés. Il est 22h15, vous écoutez France Culture. Vous avez bien raison, c'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.